1925, 1er janvier 1925, en italique. André de mon esprit, je choisis de suivre votre âme pour l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous serons réunis parce qu'il le faut, dans un soleil qui n'est point encore, et que nous aidons à créer par la peine infinie qui ne connaît pas et pourtant trouve. Voilà 11 ans que j'écris ceci. Note. En réalité, cela fait 10 fois que Catherine Pozzi écrit ceci depuis le 1er janvier 1916. Vence, 17 juin 1925, plus 5 mois. Voici ce qui s'est passé. Le professeur Le Sen a fait, en juin 1924, 2 ponctions dans cette grosseur de mon bras. La troisième fois, il prit des ciseaux, débrida, fit un chemin entre les 2 petites plaies. Je savais qu'il ne fallait pas le faire, et il le savait, il l'avait même imprimé, dans ce livre à pseudo-érudition, note. Le docteur Le Sen, chirurgien des hôpitaux de Paris, avait écrit « L'évolution de la chirurgie », publié dans la collection scientifique que dirigeait Gustave Lebon aux éditions Flammarion en 1923. Reprise, dans ce livre à pseudo-érudition, guillemets, « L'on ne touche pas aux abcès froids », fin de guillemets. Le lendemain, fièvre et puis l'horreur. Je ne me doutais pas de ce que c'était que souffrir. Je l'ai longuement appris. En septembre, peut-être un peu avant, les voies respiratoires furent prises à leur tour. J'ai râlé 3, 4, 5, 7, je ne sais plus, crises par jour. Par jour, par nuit, je n'ai pas dormi depuis un an. Pourtant, je suis guérie, presque guérie. Les crises ont cessé, ont fait lentement place à une gêne respiratoire constante que chassait seulement la piqûre de Cédol. Marie de Régnier venait presque tous les jours, Paul Valéry aussi jusqu'en mars. Alors il est parti pour la Côte d'Azur, chez sa patronne B, note Martine de Béhague. Il est revenu en avril ou en mai. Je n'ai pas consenti à le recevoir. Les 10 lettres sont là, non décachetées. Les gens de Paris ont été très gracieux. Des dames envoyaient des gâteaux que je donnais aux domestiques. Fin du journal de 1925. 1926, 1er janvier. Ma vie, mon esprit, je suis comme vous pour l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous serons, vous et moi, parce qu'il le faut, dans un monde qui n'est point encore, et que nous aidons à créer par la peine infinie, et la volonté de notre amour qui ne se connaît pas, mais qui trouve. Vence, mercredi 24 février 1926, 7 heures, plus 2 mois. Hier, nous fûmes à Nice. Maman et moi entendre un pianiste juif et polonais, note, probablement Arthur Rubinstein, que je connais un peu pour avoir déjeuné à côté de lui au printemps 1924. C'était chez le prince de Bassiano, alors, et le prince m'avait invité pour plaire à qui ? 3 petits points. Durant ces 3 heures d'hier que ce polonais écrasait Chopin sous nos oreilles, aussi proche de lui presque, nous étions au premier rang que je l'étais, assise dans le palais italien de Versailles, je souffrais de la même personne qui va venir. Que ne me laisse-t-il? Que ne vit ou ne meurt-il où je ne suis pas? Je gisais du moins dans l'indifférence. Et cet horrible passage à 20 kilomètres de moi, note. Paul Valéry est à Monaco pour une conférence. À 20 kilomètres de moi, ressemble tellement à l'affreuse reprise d'après notre rupture, quand, la première année que je m'étais enfui ici, que j'y trouvais la paix, puis un homme à prendre, si Dieu l'avait voulu, comme le voulait mon cœur de guérir, puis un homme à prendre, celui-ci revint me ressaisir et tout recommencer. André, je vous dois ce récit, je le remets depuis un an. Que s'est-il encore passé? Environ le 20 juillet 1924 à Paris, l'abcès au bras mal opéré, la plaie infectée, j'entrais dans l'abîme et je ne sais pas si j'en suis en dehors. Jusqu'en fin d'août, jusqu'au début de septembre peut-être, la torture n'était qu'une torture de soldat, pansements durant lesquels je pleurais, les nuits de grande fièvre, un état de coma avec comme un chaudron brûlant au-dessus, derrière la tête. P venait tous les jours, comme aussi mon frère, comme aussi Marie. On les laissait entrer, Il voyait un être replié, immobile, sans figure. Je disais parfois, « Dans 2 jours, vendredi, dimanche, mardi, je serai morte, et j'en suis contente. » P disait, il l'a dit un soir vers 5 heures, dans la chambre jaune, tout seul, il a dit, « Si cela vous sauvait, que j'aille me confesser, et que je communie, je le ferai. » Il l'a dit comme l'acte le plus fou qu'il put enfin me donner. Et maintenant, où est-il ? Il est académicien, note. Paul Valéry, qui s'est finalement présenté sur le conseil du maréchal Foch au fauteuil d'Anatole France, a été élu à l'Académie française le 19 novembre 1925 aux dépens de Victor et Léon Bérard. Il était soutenu par René Boislève, l'abbé Brémond, Gabriel Anoteau et Marcel Prévost. Il est académicien, très content, et vient la richesse. Si cela te sauvait, que je communie. En septembre, le docteur en médecine, note Jean Troisier, m'a fait de l'auto-vaccin. Il ne me croyait pas tuberculeuse, sachant pourtant que je l'avais été. Le mal de mon bras, convenablement préparé en pharmacie, me fut proprement injecté dans le haut des jambes. Et 12 heures après, ce que l'on appelait jadis phtisie galopante était sur moi. Très intéressante pathologie, où, s'exclamaient 3 ou 4 autres médecins, je passais d'un état nettement caractérisé d'ankylose côté gauche, bras, épaules, nuque, avec névrite aiguë, à un état type de râle pulmonaire à la dernière période. Jamais ces états ne coexistaient. Je tombais de l'un à l'autre. Jamais je n'avais de répit. Aucun des médecins ne soupçonna qu'il s'agissait du même principe. Ils appelèrent mon état premier infection post-opératoire, mon état deuxième asthme, parce qu'on n'avait pas trouvé de bacille de corps. Vers la mi-décembre, une infirmière qui voulait dormir me fit une piqûre de cédol. Elle continua. J'eus chaque nuit 4 heures en dehors de l'enfer. P venait toujours de même, il entrait quand la crise n'était pas aiguë, il s'asseyait, commençait à parler de lui, presque habituellement de l'académie, il s'en faisait un grand tourment. Vence, jeudi 25 février 1926, plus 2 jours. Dans le Gaulois d'hier, j'ai lu qu'il serait lundi à 3 heures à Roquebrune. Note, chez Gabriel Anoteau, Villa Villula. Les amandiers prennent leurs fleurs, il fait très beau temps. Parfois, comme cet après-midi, je suis calme. Hier, il me semblait que tout avait goût de mort. C'est en février, peut-être, l'année que je raconte, l'année dernière, 1925, que j'ai pensé à la physique seule et sans médecine. Mes médecins avaient entendu que les radiations servaient parfois en thérapeutique. Il ne savait lesquels ni comment. Après 7 à 8 séances d'ultraviolet, l'horreur du bras cessait et l'ankylose commençait de se défaire. Mais ce qu'on disait être de l'asthme ne cessait pas. Les crises seulement, ces heures où quelque puissance de folie et de mal me serrait à la gorge, où tous mes poisons jouaient sur ce nerf pneumogastrique dont je connais le trajet à quel prix. Les crises faisaient place à un état plus doux, quoique affreux, de gêne constante. Paul Valéry venait, entrait, reparlait de soi, je n'écoutais pas, je luttais de toutes mes forces si faibles pour respirer. Il reparlait de l'académie, et puis, parmi les visiteurs curieux, pris entre le palier et le couloir, d'une brûlante et vacillante sympathie, parmi les visiteurs curieux, donc, parmi quelques grosses baronnes, quelques amis errants entre 2 pots de fleurs, ou des envois de ces gâteaux inutiles, dans l'intervalle de mes foudroyants malheurs, le petit vent mouillé de Paris dépose au seuil, comme des balayures, Mademoiselle Gobillard. J'avais fait la connaissance de Mademoiselle Gobillard, 1 mois à peu près avant d'être opérée, note. C'est le 15 juin 1924 que Catherine Pozzi raconte dans quelles circonstances Paul Valéry fut dans l'obligation de présenter sa maîtresse à sa femme et à sa belle-sœur. Je les avais aperçus, était-ce 1 ou 2 ans avant, note. Catherine Pozzi avait aperçu Jeannie, Valérie et sa sœur les 23 et 25 mai 1923, lors de la série de 3 conférences que fit Paul Valéry au Vieux Colombier. Je les avais aperçus, était-ce 1 ou 2 ans avant, à une conférence de lui, toutes les deux. Alors l'aînée m'avait consternée. La vieille et molle cadette, pâle et douce de profil, mais non pas vieille. Quelques années de plus que moi peut-être, mais non pas vieille. J'ai tort de dire vieille. Il faut avoir une ligne précise pour vieillir. Qu'est-ce qui peut s'altérer dans ce vague ? Elle était véritablement douce de profil, une bonne religieuse dont la peau ne s'éveille jamais. Elle me rappela un couvent de mon enfance, elle ouvrait la bouche comme étonnée. Je ne lui aurais pas fait de mal. Je ne sentis rien qu'une sorte de regret, qu'une enfantine amitié. Je l'appelais ma sœur pendant cette conférence. Je ne l'avais pas entendue parler. Mais là, un hiver de printemps plus tard, dans un salon, elle se présente, gardée par l'édenté et eux, au sourire assuré. Je savais qu'elles étaient invitées. Je n'allais là que pour les voir. Je voulais les connaître, parce que, désespérant de lui, c'était le moyen d'en finir. Dans un salon où se remuent des robes sans élégance, non loin de la longue table d'un goûter, entre, avec la componction de cérémonie et le chapeau qu'on ne rencontre plus, ces 2 personnes. Derrière elle, un petit monsieur. Je me lève. Elles sont entre nous. Ils changent de couleur, au point que je m'étonne qu'on ne s'en aperçoive. Il, ou quelque autre, non, ce fut lui. C'est lui qui me présente en bredouillant. Extrême amabilité des demoiselles ecclésiastiques. Et voici qu'à cause de ces 2 chiffons, qui sont à présent le catholicisme devant mon âme, je n'entrerai plus dans aucune église pour prier, jamais. Les demoiselles Gobillard m'ont visité tout le long de ma maladie. Celle qui est l'épouse me voue aussitôt la plus déplorable sympathie, naturellement. Elle va jusqu'à l'admiration. Tout cela n'était rien, vraiment. La cruauté supérieure de mon mal, ce sort échiléen, le combat sans trêve qui n'avait plus d'heure, l'état d'héroïsme enfin dans lequel mon corps, non, pas moi, mon corps, qu'il est brave le pauvre petit, enfin dans lequel mon corps laissait dans une ombre absolument anonyme, indolore, l'existence, le dessein, les desseins s'il en fut au monde, des demoiselles Gobillard. Lundi 1er mars 1926, plus 4 jours. Maman les recevait avec ennui, tant était offensée sa dignité de femme propre et soigneuse et cet esthétisme fin et simple qu'elle apporte en toutes parts autour de ses pas. Je les recevais, je les tolérais, je vivais sans souffrir d'elles mes autres souffrances. Tout était bien ainsi. La barrière est fermée entre nous, Leonardo Mio. Ce sont les mains croisées de votre épouse qui la font et de votre amour. Je donnais ma main à cette main molle, et je savais que j'étais chaste à jamais. Pourtant, rien dans mon cœur n'était en détresse, parce que rien, venant de qui m'eût pu donner angoisse ou haine, rien n'arrivait vraiment jusqu'à moi. Elle n'existait point, elle existait où sont les êtres que j'ignore, dans une convention régulière et cependant désordonnée, dans une vertu sans attention et sans virtu. V-I-R-T-U. C'est votre talent seul, mon frère, qui l'a mise au monde pour mes regards. En créant ce mannequin, Leonardo Mio, je sais tellement bien que vous vous excusiez, que vous avez peint un passé tel que vous puissiez l'avoir eu en demeurant fier. À quel point vous avez triché en peignant, je le sais comme vous ne le savez pas mieux vous-même. Et quand vous avez brutalement nié à la dame quel fut le modèle, et pourquoi, je sais aussi bien que vous, et mieux qu'elle à quel point la copie manque le trait. Idéalisée, comme on dit. Mais vous l'aviez nommée pourtant, mais c'était elle. Mais si ce n'était pas elle, c'était vous. C'était vos sentiments pour elle, c'était sa place délimitée dans votre cœur. C'était l'utilité pathologique, malodorante et relative, l'utilité de sa présence pour votre corps, dans le passé du moins. « Oh, Leonardo, c'était votre vie la plus ignorée à mon cœur, et mon corps n'y pouvait point croire. Mais plus que cela, et enfin le péché sans rémission, quoique je le veuille, l'acte insensé qui a défait le plus grand mystère du monde, vous avez fait entrer quelque chose dans ce pays de notre pensée où nous étions seuls. Vous avez fait accéder à votre œuvre cette pauvre, pauvre personne qui est si bien faite pour rester dehors. Vous avez joué de l'habitude de vos idées. Vous lui avez prêté une demi-heure de cerveau. Où irai-je maintenant, Seigneur? Car vous aviez les paroles de la vie éternelle. J'ai laissé venir les deux demoiselles et j'ai consenti, j'ai cherché à créer telle situation qu'il ne me fût pas possible d'être votre maîtresse. C'est tout. En mars, vous partiez pour l'azur, me laissant dans la maladie. Pourtant, l'on ne pouvait penser alors que je ne mourrais pas de celle-ci. En avril, d'autres crises du bras, puis les grandes hémoptysies. Entre-temps, je recevais les élégantes amies de mon frère. Anna de Noailles m'apportait les œillets du marié, note. Anne Jules de Noailles, fils d'Anna de Noailles, né en septembre 1900, a épousé le 5 mai 1925 à Saint-Honoré-des-Laux Hélène de Wendel, fille de Guy de Wendel, député de la Moselle. M'apportait les œillets du marié. Je ne vous écrivais presque pas. Je ne pouvais plus penser à vous. En mai, vous êtes revenu, j'ai refusé de vous recevoir. Vous avez essayé de croire que vous ne compreniez pas. En juin, convalescente, je suis partie pour ici sans vous avoir revu. En novembre, guérie, je suis revenue à Paris, après vous avoir écrit une fois la vérité, puis silence. J'étais descendue au Plaza. C'était là aussi que vous m'aviez, il y a 5 ans, connue. Un jour, vous fûtes devant la porte comme je sortais. Je fus indifférent. Tu tremblais. Il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois. Nous ne pouvions pas nous perdre, tu sais bien. Quel accord paisible, quel dialogue étrange. Pourquoi avez-vous parlé d'amour? Pourquoi êtes-vous parti à Bruxelles quelques semaines? Pourquoi avez-vous écrit de là-bas comme autrefois? Pourquoi vous ai-je retrouvé si divinement fidèle, si amèrement, si anxieusement semblable au précédent malheur, venant à moi comme la pierre tombe, ainsi que vous le disiez, avare contre moi de tous vos actes, du moindre don, du moindre effort? Pourquoi demandez-vous tant de moi comme avant pour ne me rendre que des mots les plus beaux du monde? Vous demandez jusqu'à l'extrême honneur de l'âme. Vous attendez donc que je sois ceci? Est-ce un pari que le diable a fait avec le bon Dieu? Jusqu'où ira Karine? Karine lit la lettre qui la désire. Elle prend sa plume et du papier, elle envoie porter quelques lignes à la cadette Gobillard. La cadette vient le lendemain. « J'ai tant de sympathie, » dit-elle. Karine la regarde, s'y forçant. « Je suis la dernière pour laquelle, madame, vous devriez vous servir de ce mot. » Elle a mis longtemps à comprendre, puis elle a compris sans sentir. Je la fascine, comme d'habitude, elle ne sait que répondre. Son premier mouvement est de me trouver chic. Elle m'estime, elle m'embrasse, elle me pardonne, nous échangeons des propos religieux, elle sort, on pourrait s'entendre. Hélas, Dio mio, elle revient. Le confesseur fut-il consulté? Je déblaie cela, c'est irrespirable. Lui ayant promis de ne pas écrire à son époux sans qu'elle le voie, de ne pas chercher à le revoir, j'avais envoyé à elle 3 lignes d'adieu pour qu'elle les lui remette à lui, mais où je le priais de monter me voir quelques minutes avant mon départ le lendemain pour Vence. Là-dessus, c'est elle qui vient, qui monte, qui me déclare n'avoir pas remis mon adieu, mais jeté. De Corneille, nous descendons à Bataille, mais elle déclare donc l'avoir jeté, et elle déclare qu'elle ne revient que pour exiger que je brûle toutes les lettres, etc., etc. Vision que mes jours ne pourront oublier, la stupidité assurée, défendant tous ses biens au nom du bien supérieur, j'acquiesçais avec enthousiasme, qu'elle sorte, qu'elle parte seulement. J'ai appelé Maricotte, je lui ai tout dit, j'ai écrit à la 3 feuillets que je lui ai confiés pour qu'elle les remette à mon ami, gardé par le mariage. Il ne savait rien, il fallait du moins expliquer. Comment je l'ai fait, je ne sais plus. Je suis partie, le lendemain j'étais ici. J'ai reçu ensuite la lettre de Maricotte, me rendant compte de sa mission. Il semblait avoir de la peine. L'élection n'en a pas été altérée. 11 mai 1926, récit de Paris. Plus 2 mois et 10 jours. Il n'y avait personne dans le sleeping.
2h30 de l'après-midi. Mais le conducteur dit « Vous serez tranquille, le lit au-dessus est à une Anglaise dont les amis sont à côté en wagon-salon, elle ne vous ennuiera pas. » Il faisait assez beau après les cyclones des semaines précédentes. Le matin, je dors très mal avance du départ. J'étais si lasse qu'une minute, j'ai pu croire que je n'aurais pas la force de me mettre en chemin vers Paris. J'ai payé le jardinier, payé Émile. J'ai serré la main du chef maçon, ma petite auto virée devant le perron, déjà la mer. De Nice à Toulon, toute la vraie longueur du voyage. L'Anglaise, du lit d'au-dessus, entrait, sortait, m'obligeant à des combinaisons pour aérer à ma guise, selon qu'elle s'asseyait là, porte ouverte sur le couloir ou non. À Toulon, j'ouvris mon sac, ex les 4 tranches de veau dans le pain qu'avait oublié Annette, les petits beurres, l'eau seule, j'ai dîné. Après Avignon, nous nous sommes couchés, vers minuit, lasse de respirer si mal et craignant de gêner l'autre. Je passais au cabinet de toilette. Assise par terre, je me fis une piqûre de sédol.
La seringue stérilisée était enveloppée d'une compresse étroite. Je n'avais pas fait de ces piqûres depuis 5 mois. La sorte de paix bien connue vint ensuite. Je pus penser à Leonardo sans désespoir. Au rythme du train, je me chantais en inventant lentement, vers par vers, la forme de la souffrance. 12 mai 1926, le lendemain. L'Anglaise s'est levée à 6h du matin. Elle dit qu'elle doit rejoindre The Children. Elle s'habille, elle sort. Je me rendors sans doute. À 8h30, le waiter me réveille. C'est fini, je suis prête, le train stoppe, je descends. Il fait frais et beau, ne pas prendre mal à présent. Je serai malade dans 8 jours, dans 10 jours. Je sais bien que ce qui est toujours devant moi, c'est pâtir, mais retarder ce moment. Voici sur le quai Balivet, note André Balivet, maître d'hôtel de Thérèse Poddy. Il prend mon sac des mains de l'homme. Il m'explique que la voiture, sortant de chez le carrossier, n'est peut-être pas encore là, qu'il va chercher un taxi. La belle voiture bleue de maman. Je marche, je le suis, je n'ai qu'une préoccupation de maniaque, mettre dans une boîte aux lettres la lettre cachetée de cire et portant les initiales du vieux valet de chambre de Vence. La lettre tapée à la machine et sans un signe de mes mains, tant qu'on ne l'ouvre pas. Voici une boîte. La prochaine levée sera faite à 8h40. Il est 8h25. Mettre une lettre dans une boîte aux lettres, quand c'est une lettre à l'amour, il m'a toujours semblé que je faisais cela comme l'on communie. Mais dans la lettre, il y a d'abord 2 pages de copie. La copie d'une de ses lettres à lui, d'autrefois. « Je voudrais porter la torche dans l'antre où l'enfance est ensevelie, et ce qui fut avant l'enfance, où je trouve tes racines mêlées aux miennes. » Et puis, copie d'une lettre de moi, copie de passage du journal, ensuite une page au crayon. « Je suis à Paris. » Il recevra ce soir. Le taxi va vite et c'est bientôt le quartier connu. Je n'attends pas qu'il soit venu Victor Hugo. Je ne cherche pas la personne rapide, ligne trop sèche, anxieux et beau regard. À peine une rencontre et cependant plénitude. Il ne sait pas que j'arrive. Le saurait-il qu'il ne m'attendrait pas? Je m'appuie dans le taxi, tour à tour, et me tiens droite. Voici la maison, Marie, qui descend trop tard pour m'aider à porter les choses, l'escalier froid, l'appartement orné, ordonné, maman. Je marche jusqu'à la chambre bleue, pas de lettres naturellement. La chambre apparaît charmante, chinoise. Pourquoi? Pour ses murs très bleus. Il y a des tulipes citron, un long tapis bleu sombre aux géométries orangées, mon admirable Tanagra aux grandes ailes, chauffage central, feu, je suis au port. À présent, il n'y a plus qu'à retomber malade. Ce sera mieux que là-bas où, depuis 1 an, la solitude m'a mise au pays d'imbécilité. Maman apporte le café au lait. Maman est bien contente. Je le serai aussi, ô maman, que je ne veux plus quitter. Je le serai sans cette folie derrière le cerveau. Je ne suis pas sortie ce premier jour. Le lendemain, 13 mai. Pas de lettre,
N'avait-il pas reçu la veille au soir ma lettre de la gare? Ne répondra-t-il pas? Ne la reçoit-il qu'en cette minute-ci? Je sais, je sens bien qu'il ne répondra pas. Mais l'espoir me fait lever, habiller, sortir dès 10h30 pour chercher un coiffeur et comme ils sont tous fermés, je vais trouver celui du Plaza dans les sous-sols de luxe sous le concierge de luxe qui ne salue jamais. Le coiffeur est grec, je lui dis « Kaliamera », note « bonjour ». Mais cela ne l'empêche pas de me brûler ce poil trop fin. Cela dure presque 1 heure et je sors. Je monte, place Diéna chez Jean. Jean est en robe de chambre et se met à parler de Valérie. 1000 admirables poteries d'Orient sont sur les tables. Jean cherche Rumps, note. L'édition originale de Rumps, notes et autres, apparut aux éditions du Divan en mars 1926. L'exemplaire du frère de Catherine Pozzi porte cette dédicace à Jean Pozzi pour lire à Prague son ami Paul Valéry. Rumps s'écrit R-H-U-M-B-S. Jean cherche Rumps, me montre une dédicace, une signature que l'auteur y mit hier. Dieu que j'ai mal, ô bête de Dieu, ô mon Dieu manqué, il fait froid dans cet appartement, je pars. La maison, midi, personne n'est venu, pas de lettre. Ah ah, je pars pour l'idiotie, évidemment. J'aperçois distinctement l'univers de maniaque où je vais tourner. Paris est là, je n'en ai pas envie. Les dames sont là, les jolies femmes et les robes, le brillant des jours, peut-être des succès, je n'en ai pas envie. Je réécris les vers du train. Peut-être qu'ils sont beaux, je les entends dans mon âme être beaux avec indifférence. Vendredi 14 mai, le lendemain. Le vendredi 14 mai, je m'éveille plus tôt que je ne m'éveillais avance, ayant dormi et traîné dans l'espace égaré de mes mouvements de fantôme qui désire. À 9h, on sonne pour le courrier. Aucun domestique ne s'en occupe. Je cours, j'ouvre la porte, je prends des journaux, des brochures, une lettre, dont l'enveloppe est celle d'un hôtel de Menton, parce qu'il prend du papier partout où il voyage. Mais je n'ai pas besoin de regarder le timbre de Paris de la veille. Voir. Il y a de grandes difficultés. Écrire. Si quelque chose demeure à dire après les échanges. Accablé de travaux. La chanson est douce. Pourquoi ici? Les dents, les robes, les ennuis? C'est tout. Il ne m'aime absolument plus, aucune résonance. Mais il faudrait plus que cela. Il faudrait la mort même pour que je n'aille pas au bout de mon chemin, du seul chemin que j'ai cherché, que j'ai trouvé pour moi depuis l'enfance. Je me mets à taper à la machine. Misérable prudence, notre dommage. Et en anglais, une page confuse lui demandant de venir au moins 1 heure, qu'après « You will get silence ever lasting. » Vous obtiendrez ensuite le silence éternel. À 2 heures, comme je regarde l'autre rue, celle où je ne puis former seul de mes seuls yeux une image qui marche vers moi, qui est si souvent, souvent venue, je devine, je saisis, avant que le regard ne l'ait composé, la présence réelle de ce songe d'esprit. Il s'avance, très vite comme toujours, il lève la tête, il me voit, d'un mouvement interroge, d'un mouvement je réponds. Il est là, je tremble très longtemps sur sa poitrine. Ce qui suit est sous forme de poème, note en bas de page. Il s'agit là d'un des premiers états du poème « Vallée » qui ne sera pas publié du vivant de Catherine Pozzi, mais avec quelques menues variantes par la revue « Mesure » après sa mort en 1935. Voici le poème. La grande amour que vous m'aviez donnée, le vent des jours a brisé ses rayons. Où fut la flamme, où fut la destinée, où nous étions, où par la main serrée nous nous tenions. Notre soleil, dont l'ardeur fut pensée, l'orbe pour nous de l'être sans second, le second ciel d'une âme divisée, le double exil où le double se fond. Son lieu divin apparaît cendre et crainte, vos yeux vers lui ne l'ont pas reconnu. L'astre éternel qui portait hors d'atteinte l'extrême instant de notre seule étreinte vers l'inconnu. Mais le futur dont vous attendez vivre et moins présent que le bien disparu. Toute vendange à la fin qu'il vous livre, vous la boirez sans pouvoir être qu'ivre du vin perdu. J'ai retrouvé le céleste et sauvage, le paradis où l'angoisse est désir, le haut passé qui grandit d'âge en âge. Il est mon corps et sera mon partage après mourir. Quand dans un corps ma délice oubliée où fut ton nom prendra forme de cœur, je revivrai notre grande journée et cet amour que je t'avais donné pour la douleur. Fin du poème. Jeudi soir, 3 juin, plus 17 jours. Leonardo est venu cet après-midi examiner les dessins que Marchand lui apportait. Note. Jean Marchand, que Catherine Pozzi avait réconcilié avec Paul Valéry, avait réalisé quelques portraits de celui-ci lors d'une conférence aux Annales. Trois de ces croquis illustreront corrigés. L'édition originale imprimée pour Les Amis des Cahiers Verts de la Lettre à Madame C. Édition Grasset, 1928. Reprise. Que Marchand lui apportait. Il existe dans une hâte auprès de laquelle était calme la course au rendez-vous d'autrefois, quand les gens se le rejetaient, quand il faisait bal d'un salon à un libraire. Aujourd'hui, c'est tout Paris qui le veut et le redemande. Ces livres font des tarifs de valeurs étrangères. Les manuscrits font de vrai or. Hier, quelque négociant est venu lui offrir pour 18 000 francs 20 lettres de lui-même à Pierre-Louis. Note. 15 lettres de Paul Valéry à Pierre-Louis, qui était mort le 4 juin 1925, écrites entre 1915 et 1917 et recueillies par Julien-Pierre Monod, seront publiées hors commerce en décembre 1926. Fin de la note. Quand il m'a raconté cela, il n'a pu ne pas évoquer l'énorme prix de l'énorme correspondance qui est cachée là-bas, chez moi, dans la maison maintenant fermée, 2 ou 3 000 lettres, 1 ou 2 millions. Guillemets, la grande amour que vous m'aviez donnée, fin de guillemets. C'était vous-même et votre volonté spirituelle quand elle brûlait son feu. N'est-il pas juste que vous n'ayez plus l'ardent mouvement vers ma pensée quand vous ne brûlez plus pour rien? 5 juin 1926, plus 2 jours. Leonardo ce matin, quelques minutes. Leonardo cet après-midi. Il a repris mon chemin comme une pierre. Je sais qu'il ne m'aime pas. Il parle de sa puissance, une ambition implacable, soudain levée, comme un grand vent derrière cet esprit de cristal, ce sentiment insensible, cette impuissance de la volonté. Je vois l'extrême de son intelligence, le reste de lui vide absolu, et j'accepte de m'y livrer comme on meurt. Pourtant, je dois être séduisante, si le plus difficile ne me préfère rien que soi. Le peu de Paris où je pénètre est à moi sans longue phrase. Ce corps même, bien vêtu, le forçat est amusant. À chaque grâce qu'on me fait, j'interroge une chance, la seule chance qui me tente plus que Paris, le cercle magique éclairé par la lampe, où je suis parfois debout le soir, où je ris, où quelqu'un m'écoute rire sans entendre autre chose. Ô sourd qui avez étudié la résonance, le moins dispendieux de vos instruments de mesure ne s'y tromperait pas. 18 juin. Plus 9 jours. Matin chez Mouchy, 92 avenue d'Iéna. Je porte jumper et jupe velours brun, chapeau feutre brun, rond, souple, souliers cuir brun, bas beige clair, cap beige clair de Vionnet, à bandes castor brun, Princesse de Chimay, déjà là, gentille, pas chic aujourd'hui. Mad, Vévère en bleu pâle. Mouchy, dense, en tulle prune, genre calot. Ravissantes sont ses jambes. Elle a le dessous des bras épilés, décolleté très bas où l'on mordrait. Visage dur, visage d'une vie. Je n'ai pu résister au désir de venir entendre cette musique et voir une heure de beaux mouvements légers. Je joue avec ma maladie, elle sommeille et se cache derrière mon plaisir. Avant de sortir, je suis piquée à l'arsenic, j'ai bu de l'huile de foie de morue. J'en ferai bien plus pour acheter quelques semaines à Paris. Mon Dieu, quand me tomberez-vous de nouveau, lourd comme plomb qui brûle, amer comme acier sur la tête et dans le corps, pour que je re-meure. Je danse, Mouchy me regarde, elle et la princesse crient. Que c'est joli, elle est faite pour inventer des pas. Je danse et mes pieds sont légers et porte en dansant tout ce malheur. Pendant que je danse, la voix de Mouchy annonce « Voici Monsieur X ». Je m'arrête, brusque. Mouchy me regarde m'arrêter. Il m'a suivi, là, cette fois encore. Il vient s'asseoir près de moi. 3 heures. Anna de Noailles me téléphone. Elle veut venir chez Mouchy aussi. Puisque le célèbre rival y paraît, elle veut y paraître, et même qu'on les photographie, gambillant, et même qu'on vendra cela à l'Amérique très cher. Ensuite, elle me parle de moi, d'elle, de la souffrance, de la mort, du besoin qu'elle a des autres. Elle dit « L'âme, c'est ce qui dure tant qu'on vit. Mais le vrai sujet pour lequel on m'a demandé n'est pas celui-là. Je vois bien qu'elle va y venir, qu'elle y vient. Valérie n'est pas un être fait de sang. Il est en minéral. C'est une substance non humaine, du magnésium par exemple. Il est incapable d'être malheureux. Il ne sent rien, il n'est pas un poète, parce qu'enfin ce syllogisme mal bâti, Anna, n'aurait qu'une conclusion, n'a qu'une conclusion que vous voudriez qu'à votre place précisément l'on expose. 6 heures, chez la Pierre Bourg, 15 voitures. Oh là là, c'est le gala. Je monte avec Poncet et fille, note, Madame Antonin Poncet, dont les deux filles Luce et Suzanne, violentes, sont des amies de Catherine Pozzi, organisa autour de Jules Cambon, alors dans les finances, un salon particulièrement animé entre 1925 et 1930. Je monte avec Poncet et fille, plus l'agréable Madame de Fels, note, la comtesse de Fels, née André Lebaudy et héritière des sucres du même nom, était la belle-sœur d'Edmé de La Rochefoucauld. Elle tenait un salon politique très important et très bien vu du Quai d'Orsay, dont Gaston Palevski était l'un des principaux habitués. Plus l'agréable, Madame de Fels. En haut sont Madame Willy Blumenthal, que j'aime bien, et je n'aimerais bien qu'elle pour une heure, Madame J. Blanche, note, Madame J. E. Blanche, née John Lemoine, d'origine américaine, était l'épouse du peintre Jacques-Émile Blanche. Madame Pouquet, note, Madame Pouquet, née Jeanne Pouquet, avait épousé en seconde noce un ingénieur civil des mines qui était son cousin Germain. Par son premier mariage, qu'il avait uni à Gaston Armand de Cavaillet, elle se trouvait être la belle-fille de Madame Armand de Cavaillet, l'égérie d'Anatole France. Madame Pouquet, la duchesse de Camastra, Abel Bonnard, note, Abel Bonnard, mort en 1968, alors écrivain reconnu et journaliste introduit, se tournera vers la politique après avoir publié quelques essais. De 1942 à 1944, il sera ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Vichy et fera le voyage de Weimar. En 1945, condamné à mort par contumace pour collaboration avec l'ennemi, il sera exclu de l'Académie française où il avait été élu en 1932. Abel Bonnard, Henri Robert, note, Henri Robert, avocat à la cour, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, membre de l'Académie française. Nolac, note, Pierre de Nolac, conservateur honoraire des musées nationaux, directeur du musée Jacquemart André, membre de l'Académie française depuis 1922. Nolac et Tutti et Tutti Tutti. Bien, je me suis trompée de jour. Guillemets. Revenez samedi prochain, vous trouverez vos amis, vos petits amis, dit la veuve sur un ton qui en couvre long. Allons, allons, cette dame n'aime pas qu'on lui fasse floculer ses thés avec des micelles mal choisies. Micelles, M-I-C-E-2-L-E-S. J'étais du samedi 27, malheur, rien ne me retient plus. Je descends ma cape de Vionnet voir d'autres cieux. Effondré ici, je me retourne et jette regard dernier sur vos dos, messieurs courbés en rond, comme poulets tendres au grain. En ces lieux tombent les honneurs. Mon ami m'a téléphoné une heure ensuite. Il y avait été. 30 juillet 1926, plus un mois et demi. Mono, note. Julien-Pierre Monod, d'origine protestante, était l'ami et l'admirateur de Paul Valéry, qui le nomma son ministre et lui confia en 1926 la responsabilité de sa correspondance d'affaires. Il constituera une très importante collection de manuscrits, documents et éditions originales de Paul Valéry. Le Valérianum, actuellement conservé à la bibliothèque Jacques Doucet. Reprise, Mono à sa dévotion. Ce protestant, s'il connaissait le grand être qu'il admire, aucun vivant plus adverse au protestantisme, à la rigueur de l'âme, à la religion de l'action, à l'absolu moral, aucun plus faible, plus chancelant, plus aveugle, plus noir. Hélas, aucun n'a moins de courage. Mono voit la rigueur de la raison, et de celle-ci s'élance par induction simple. Mono voit l'esprit. Je continue. L'esprit. Ostinato rigore, note. Obstiné rigueur, devise de Léonard de Vinci, que Paul Valéry cite et commente dans L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Mono voit l'esprit, ostinato rigore, et comble un vide par une âme dont, sur cet esprit, il créa le modèle. Ou bien sent-il, et là même, que cet esprit incomparable est une âme pauvre, terrifiée de tout? Est-ce cela qui se fascine, ce drame à peine soupçonné? Cela qui m'appelait? Qui l'appelle? Il n'y perdra pas son âme, comme moi. 29 septembre, plus un mois. Je lui disais l'autre soir, guillemets, ce qui vous explique peut-être, c'est la peur. L'âme extrême de vous est peur. Sentiment inconnu maintenant, certes, et qui n'est pas cette peur particulière, précise, nommable, apportée par un danger précis. Votre peur est étrange et totale, comme celle des premiers hommes, comme celle des premières terres. Panique ? Dit-il. Mais il l'avouait sans autre parole, croyait que ce trouble affreux envahissait sa vie, quand il était petit enfant encore. Qui le devine devant votre regard ? Vendredi 15 octobre, plus un mois et demi. Valérie a parlé à Julien Monod du sort de ses cahiers après lui, et, not naming, sans se nommer, de qui en aurait la charge. This took place, cela a pris place, chez Mono, after having brought, après avoir apporté, certains papiers en dépôt. Matin du 20 octobre, plus 5 jours. Lettre de Zurich. Comment chaque battement de votre cœur fait-il un homme? Entouré de corps, d'êtres et d'objets, amusé d'espérance, vous êtes là. Une infinité de signes vous parviennent. C'est l'univers qui s'impose à vous. Vous répondez, vous croyez d'être immobile, vous croyez de vous taire. Vous répondez. À chaque battement de cœur, vous acceptez, vous refusez, vous demandez quelque chose, mais vous êtes assuré de n'avoir pas agi, et que chacun de ces mouvements invisibles est au néant. Et s'il n'était pas au néant? 20 octobre. Je vous remercie de m'avoir appris à travailler avec précision. 21 octobre, le lendemain. N'ayant absolument plus aucun espoir, ne comptant même plus sur l'intelligence, comprenant que la gloire est pour les heureux, empêché de vivre de ce corps foudroyé, les amis étant morts, la science utile étant pour les vivants, objet d'étonnement à ceux qui passent, scandale à ceux qui se contentent, assise sans presque respirer, elle travaille, une rose au cœur. 22 octobre 1926, au soir. Le lendemain. Lettre de Vienne. Pour les vies très malheureuses qui ont cherché avec une grande constance le meilleur, le bouddhisme est eau fraîche et pure. Note. Catherine Pozzi avait déjà travaillé sur les textes du bouddhisme à la Bibliothèque nationale dans les premières années de son mariage, approfondissant ainsi ses lectures de 1906. Il est probable qu'elle répond ici à l'exécratio de Paul Valéry pour « Ceux qui se nourrissent de choses hindoues, d'Upanishads et de systèmes de choses qui pouvant être niées, doivent l'être. » Cahier, 1920, édition Gallimard. Dimanche 24 octobre, plus de jours. Une petite fille de 9 ans a dit de Karine, note Catherine Pozzi, mieux que jamais n'a pu dire celui qui tient lieu d'un ami. Annette, note Annette, fille de Monsieur et Madame Jean Troisier. Annette demande au J.T. guillemets. Pourquoi elle est si mince? Parce qu'elle a été malade. Elle est charmante, dit Annette. Sais-tu qu'elle jouait avec ton papa quand il était petit? Oh non, c'est impossible. Elle était trop petite quand mon papa était petit. Vraiment, Annette, quel âge a-t-elle? 20 ans, dit Annette. Elle est morte à 20 ans. Jeune, belle, adorée. 4 novembre 1926, plus 10 jours. Monsieur, note. Lettre de Catherine Pozzi adressée à Jean Paulhan, 1884-1968, rédacteur en chef de la NRF depuis la mort de Jacques Rivière en 1925. Monsieur, je reçois de Prague une lettre de Monsieur Paul Valéry me priant d'autoriser la princesse de B, note, la princesse de Bassiano, a vous cédé la publication d'une fantaisie intitulée Agnès, qui devait paraître à Commerce et que vous demanderiez pour votre numéro de... Alors, attends, de... Attends, excuse-moi. Pour votre numéro de XXX. Il serait difficile d'hésiter entre C et la NRF, et l'autorisation n'était pas nécessaire. Voulez-vous envoyer les épreuves nouvelles, s'il y a lieu, à l'adresse qui est en tête de ceci, note. Il s'agit de l'adresse d'un ami, Henri Fourgassier, 11 square de Messine, intermédiaire désigné par Catherine Pozzi pour protéger son anonymat. Note de la lectrice, Agnès est une nouvelle écrite par Catherine Pozzi. Reprise. Voulez-vous envoyer les épreuves nouvelles s'il y a lieu à l'adresse qui est en tête de ceci? Mais je vous prie, encore qu'un certain anonymat dépare les sommaires, de ne pas imprimer d'autres signatures à cet essai que CK. Note CK pour Catherine Karine. Veuillez croire, monsieur, que le sentiment de mes devoirs envers Madame de B gêne seule l'expression du grand plaisir que j'ai à passer chez vous, pour copie conforme. Historique, juin, Maricotte me supplie d'écrire, et j'ajoute 20 pages à l'Agnès qui en avait une quinzaine. Maricotte emporte à Prévost, note, Marcel Prévost, 1862-1941, auteur de romans parfois audacieux, axé sur la psychologie féminine, fut directeur de la Revue de Paris, puis fonda en 1921 la Revue de France avec Joseph Bédier. Il était membre de l'Académie française depuis 1909 et président de la Société des gens de lettres. Maricotte emporte à Prévost qui accepte en refusant, c'est-à-dire en exigeant coupure. Je raconte au Valérie. Le Valérie reçoit précisément demande de copie. Il envoie Agnès à la princesse américaine. La princesse américaine lui répond sic. Oui, avec joie, si c'est de vous. Non, sans cela, re-sic. Il insiste, en dépit de moi, of course. Et elle accepte et paie. Mais désolée de l'objet, elle le refile à Paulhan. Outinam, note, qui signifie si j'avais pu. Que je sois restée au tiroir. 12 novembre 1926, plus 13 jours. Je me souviens de la mort de Mam, note, en novembre 1918, sa grand-mère. J'étais hors de moi, parce que je voyais tous les autres l'accepter, aucun ne l'a refusé, ne vouloir faire quelque chose tout de suite contre cela, essayer tout, lutter jusqu'à ce que ce corps se défasse entre nos bras. N'est devant nous plus sa forme, ce brusque abandon, cet abandon total de tous, plus affreux, plus indigne que la mort même. Il pleurait et ne faisait rien, même pas un médecin, pour dire que vraiment il n'y avait pas de doute. Et ils l'ont laissé là 2 jours. Le troisième, on l'a cloué, on l'a livré aux hommes de métier. Ceux-là l'ont emporté, entouré de prêtres, qui blaguaient au soleil. Il me semblait que jamais humain détesté n'avait été trahi par tragique surprise, comme nous trahissions cette gracieuse personne humaine, délice de nos vies. Aucun mot ne peut dire ce mal. Tant de tendresse et sans cesser, jusqu'à cet adieu qui n'hésite pas. Mais plutôt que tous les arts, que les sciences mortes, comment les hommes ne se sont-ils pas unis dans les sciences de la vie pour trouver un moyen de guérir la mort ? Comment aucun de ceux qui ont vu une seule fois un corps dans un cercueil a-t-il pu regarder, passer et puis penser à autre chose? 18 novembre, plus 6 jours. Une journée de misère parce que les injustement salariés n'ont pas allumé le chauffage, payé la paresse des autres par la détresse sans nom du corps. 19 novembre, matin, le lendemain. Épuisement de la force de vivre. Tous les soirs, 1-2 heures d'agonie étouffée. Hier pire pour rien, pour ce chauffage manqué de l'autre jour. Puis une visite à Versailles et trop de paroles. C'était dimanche dernier. Depuis, traîne. Hier soir, on n'en plus pouvoir. Enfin, on renonce. La volonté et la curiosité renoncent. Mourir, et voilà tout. La morphine me démolit inutilement. J'en ai pris 3 fois depuis octobre. Je n'y suis plus habituée. Je vacille le lendemain. Les gens, l'après-midi, trouvent une personne parée. Le soir est sincère. Couverture sans élégance et dos courbé. J'allume du feu quand je n'en puis plus. Je m'assieds devant. Hier, endormie devant. La princesse de Chimay venait me chercher ce matin pour voir des robes. Cet héroïsme n'est même pas exemplaire. Je rends le rôle. Et l'autre, buvant l'Europe, se regardant être regardé, qui, cependant, parfois, prend à ses fêtes 1 minute, ou écrire que l'amour, quelque part au passé, ou dans un avenir quelconque, peut être agrément. Sort extraordinaire. Tu seras la douleur et le plaisir. 6 heures chez la baronne de Pierrebourg. Robert de la Ciseranne, note. Robert de la Ciseranne, homme de lettres, historien et critique d'art sous le pseudonyme de Trébor, fut un ami proche de Mallarmé. Robert de la Ciseranne, à qui je pose des questions aussi intelligentes, L'intelligence étant l'application précise d'une puissance à un moment, aussi intelligente que celle du quantum fixe de douleur dans le monde, et, comme il va répondre, au-dessus de tristes gâteaux, entre la protectrice des académiciens note, Madame Mulfeld, qui avait œuvré pour l'élection de Paul Valéry à l'Académie française exactement un an plus tôt. Entre la protectrice des académiciens avec une robe sans élégance sur une personne tout mouvement. « Comme on se retrouve, dis-je. Elle m'entraîne, elle m'adore, elle me fait asseoir, elle ne voit que moi. Elle veut absolument une histoire de plus, pauvre petite dame. Je vous aime à travers. Un nom. Je vous connais par lui. Tant parler de vous, je sais tout sur vous. Jamais parler de moi, madame. Comment? Que dites? Mais je vous assure, et pour une seule raison, c'est qu'il ne vous a parlé que de lui-même. Je suis son modeste miroir. » Elle se réfugie in libido. Au hasard, les jeunes gens, les professionnels, les amants, ce sont eux qui semblent ne pas y penser, avec intention précise. Et K, c'est-à-dire Catherine, deux points guillemets, oui, madame, l'amant, ce n'est pas ce beau gars qui vous accompagnait à la piscine et qui a tout vraiment parfait. C'est, croyez-le, le vendeur malade des galeries Lafayette, habillé en veston de papier et qui vous donne avec un visage en mie de pain du crêpe Georgette. Celui-là, c'est celui-là qui vous mettrait au ciel, mais vous ne le devinez pas. » Fin de guillemets. Je crois que j'ai été insolente, avec les plus grands compliments. Ces poules qui prétendent vous ouvrir l'âme et puis rigoler. 20 novembre, le lendemain. Je voulais lui montrer ce travail. 9 pages. Il répond. « Oh non, cela m'ennuie, ce qui fait que, vraiment, esprit pour les autres, et l'on m'en assomme, je suis seulement corps pour le seul qui soit mon esprit. Il touche ma robe, je suis vraiment corps pour le seul qui soit mon esprit. » 25 novembre, Sainte Catherine, plus 5 jours. C'est ma fête, ma fête, ma fête. Qui m'aime aujourd'hui? Je me souhaite ce soir que Leonardo d'autrefois entre avec un regard de 1920. Dans la main cachée, il tiendra ce cadeau, car je n'ai pas de montre. Et dedans, il y aura quelque chose de romanesque gravé en latin. Je ne souffre de nulle part, et je me suis fait chercher pour 10 francs de cigarettes. Mis jolie robe, élu physique tout l'après-midi, très content. He came and brought nothing. And said no better thing than, il est venu, il n'a rien apporté, et il n'a rien trouvé de mieux à dire que, je suis fatiguée, je ne puis penser, je sens que je perds ce que nous aurions pu trouver. Fin de guillemets. Et ce seul aveu qu'il vient ici pour un plus, qu'on pense le moins éternel, forcé, note, peut-être. 26 novembre, le lendemain. Tenter d'y voir clair, de faire un bilan de pensée, où les espoirs possibles, métaphysiques, seront exposés pour moi. Si cela fait un livre et qu'ils en veuillent, tant mieux. Le défaut de ce que j'ai écrit sur le Bouddha est celui-ci. Cela fut écrit pour un lecteur, d'où enfantin, puisque cela ne me sert à rien de me donner un lecteur pour lequel je descends au-dessous de l'esprit. Écrire pour moi. Ils aiment ne pas comprendre. Ils seront servis. Maman n'est vraiment douce avec moi que par lettre. Il y a contre Claude, en elle, toute l'horreur d'une race pour une autre. Elle n'a jamais senti là sa chair et son sang. Elle voit l'autre famille. C'est presque toujours à cette autre famille qu'elle parle, avec le ton de l'indignation. Elle s'étonne de recevoir le silence. Comme elle est délicieusement bonne, ses actes sont toujours ceux de la sollicitude. Mais comme l'autre famille l'exaspère, ses actes généreux sont dispensés avec tous les mouvements de l'impatience. Claude reçoit donc ses biens sans remercier. Et cela continue. Quant à moi, j'ai donné de tels soucis, et je coûte si cher, que ma présence fatigue, et que l'agrément en est voilé. Il y a trop d'heures terribles dans notre passé commun. Elle ne peut plus s'asseoir près de moi avec insouciance. Je ne suis le repos que de celui à qui mon mal est léger. Pourtant, je n'en parle pas. Je crois que je n'en accable jamais ceux qui sont là. Je suis plutôt gaie encore maintenant. Mais maman est vieille et le passé est lourd. Elle est bien belle, quoique vieille, et son corps marche avec une majesté tranquille. Nuit du 29-30 novembre, plus 3 jours. De Profundis. Note. Ce poème, intitulé De Profundis, dont le premier état remonte à 1916, ne sera pas inclus dans la plaquette de poèmes de Catherine Pozzi, éditée par Mesure. De Profundis. Ô cœur muet des vivants, hors la vie, sourde musique aux confins d'aujourd'hui, perdu, parfait, deuil, désir, léthargie, le mal de Dieu est un feu dans la nuit. Le lâche appelle vers votre multitude. Foule immobile en l'obscur éternel, traverse-t-il outre la solitude? Peut-il blesser l'innombrable sommeil? Vers votre horreur, notre soif est allée, ô frère lourd, léger dans l'inconnu, fils de l'esprit, dont la force est passée des profondeurs, sauver l'esprit perdu. 1916, note de la lectrice, il doit s'agir du même poème, version 1916. Ô cœur muet des vivants hors la vie, sourde musique au seuil fermé d'aujourd'hui, perdu, parfait, douleur, désir, léthargie, le mal de Dieu est un feu froid dans la nuit. Le lâche appel crié vers vous, multitude, foule immobile, oscillante vers l'éternel, a-t-il atteint le ciel de la solitude? A-t-il blessé votre innombrable sommeil? Vers votre horreur, soif, sans espoir étalé, ô frère, lourd, léger, au noir inconnu, fils de l'esprit, dont toute force est passée, des profondeurs, accueillez l'esprit perdu. Catherine Pozzi. J'ai fait cela en avril 1916 et l'ai envoyé à André. C'était sur un rythme grec et je l'avais suivi, ce qui donnait 11 pieds avec césure au quatrième. Je l'ai remis en 10 cette nuit. Hasta la stress. Note. Jusqu'à 3 heures. André répondit que c'était bien tarabiscoté d'expression. J'ai sa lettre et la mienne de ce temps-là. 2 décembre. Plus 2 jours. Il faut qu'il aille en les salons défendre chez Pouquet ses conférences allemandes. Note, Paul Valéry avait fait en octobre une série de conférences à l'ambassade de France à Berlin. Défendre chez Pouquet ses conférences allemandes, préparer chez Bousquet ses réponses à Brémond. Note, Marie-Louise Bousquet, veuve du revuiste Jacques Bousquet et directrice du Harper's Bazaar, était d'origine américaine. Bousquet tint, après-guerre, un salon très brillant et se situa d'emblée comme la rivale de Madame Mulfeld, car elle recevait les mêmes jeunes littérateurs et les mêmes gens du monde cultivé. Henri de Régnier, qu'elle appelait ma grande asperge, était le plus fidèle de ses habitués. Elle œuvra à l'élection de René Boislève à l'Académie française. Préparer chez Bousquet ses réponses à Brémond. Note, l'abbé Henri Brémond, qui avait été élu à l'Académie française en mai 1924 au fauteuil de Monseigneur Duchesne, avait inauguré, lors de sa lecture à la séance publique des cinq académies, le 24 octobre 1925, un débat sur la poésie pure. Paul Valéry en était l'interlocuteur tout désigné, puisque c'était de son avant-propos à la connaissance de la déesse de Lucien Fabre que l'abbé Raymond avait tiré cette expression qui fit florès. Leur dialogue se perpétua dans les colonnes des journaux et revues, dans les salons, jusqu'à ce que l'abbé Raymond aboutît à une définition mystique de la poésie. Prière et poésie 1926. Définition que Paul Valéry ne pouvait ni accepter ni discuter. Catherine Pozzi avait souhaité, sans le connaître personnellement, lui remettre tout son travail et son journal. Préparer chez Bousquet ses réponses à Raymond, pousser Cambon par Poncet, Soudet par l'autre. Note, Paul Soudet, 1869-1929, chroniqueur et critique littéraire à L'Opinion en 1910, puis au Temps, fut très lié à la carrière littéraire de Paul Valéry. C'est en effet lui qui, le 28 juin 1917, parla élogieusement au lecteur du « Temps de la jeune Parque » de Paul Valéry. Par la suite, Soudet, qui fut probablement le critique littéraire le plus influent de son époque et certainement le plus craint, devint le grand ami de l'écrivain sur lequel il rédigea dès l'année suivante un essai, Paul Valéry, édition CRA, 1927. On le désignait dans la presse sous le sobriquet de Sulfate de Soudet. Reprise, poussé Cambon par Poncet, Soudet par l'autre, et manœuvré jusqu'à la mort comme l'homme qui veut arriver. Arriver? Disait Capus? Oui, mais dans quel état? Note, Alfred Capus, 1858-1922, romancier, élu à l'Académie française en 1914, auteur de nombreuses pièces de boulevard, puis rédacteur en chef du Figaro. Le matin, mon test, note de la lectrice Valérie, se plaignait de ne pouvoir écrire, d'être fini. Changez de vie si vous ne voulez périr. Il ne vous reste donc plus de vous-même que ces instants que vous passez ici. 5 décembre 1926, plus 3 jours. Faillite en Claude. Pour avoir dîné avec des snobs et entendu vanter une pièce de théâtre, il veut en revoir le célèbre auteur. Je l'ai défendu pendant 6 ans contre la dureté, le désordre, la méchanceté, le vice de ce bonhomme. Au prix de ma fortune, je l'ai fait élever à la campagne. L'autre, refusant de régler ce luxe parce que je craignais une tragique hérédité. J'ai maintenu l'esprit contre les amitiés dégradantes et la discipline contre la facilité. J'ai donné les sciences à Claude et toutes les curiosités qui sont divines. Je lui ai donné le bien-être et les soins qui préservent le corps et il n'y a jamais eu pour moi, d'heures si tristes qu'elles m'empêchent de le protéger. Mais les 300 représentations de la prisonnière sont fortes contre ce souvenir. Note. La prisonnière, pièce qu'Édouard Bourdet avait dédié au directeur de théâtre André Antoine, est à l'affiche du Fémina depuis le 6 mars 1926. Et il va présenter 1000 gentillesses et qui sait de la confiance à ce sot qui ne s'est pas, depuis 1921, informé de lui une seule fois. 8 décembre, plus 3 jours. Qu'importe, tous et aucun. Ici, mon bonheur et l'être absolu. Je n'imagine rien de meilleur au monde, ni dans la jeunesse, ni dans aucun bien, que d'être ainsi ensemble entre vos desseins et mes questions. Pour ce, je vous remercie et vous prie de compter comme rien les peines que vous avez pu me donner à souffrir sans faire exprès. Du moins, mon très seul bien, nous ne nous sommes jamais manqués l'un à l'autre. Nous pouvons nous détester par heure, mais nous ne pouvons pas ne pas être chacun à chacun le grand bonheur. 9 décembre. Le lendemain. Guillemets. Je te supplie de m'écrire que tu ne m'en veux pas. Écrit Claude. 10 décembre, le lendemain. Mauriac, lu par Valérie. Hilar. Guillemets. Force vive et pas de masse, dit Valérie. Il faut tout le temps renouveler. Why? Quoi? Parce qu'il n'y a pas de dessous. Guillemets. Le meilleur roman n'est après tout qu'un recueil de programmes de poèmes. Ceci a été dicté par Paul Valéry. Guillemets. Mon Dieu, que la vie est embêtante. Plus c'est vrai, plus c'est emmerdant. Guillemets. On ne voit plus que le détail dans l'écriture prose. Cela devrait être réservé à la poésie. Guillemets. L'écrivain a des sens, un squelette et des muscles. Certains, au contraire, n'ont que des organes de sens, d'autres les trois petits points, d'autres le T du cul, ce sont les plus nombreux. La question est d'avoir tout, mais tout dans son meilleur état. Fin de guillemets. Ce propos, guillemets, ce qui domine chez K, Catherine Pozzi, c'est paraît-il le système nerveux, de là invention et particularité. Fin de guillemets. À transformer ou à refuser ou à faire croître, cela lui est tellement indifférent que je ne puis le lui faire dire. 11 décembre, le lendemain. Journée très triste hier. Quand vous êtes sous les cendres, il me semble d'être chose vivante par méprise. À 7 heures du soir, il fallait aller chez Madame Willy Blumenthal, qui avait réussi par fleurs et prières à obtenir une promesse de visite de Marie. Marie était là devant des gâteaux royaux et un fromage en cœur de crème immaculée. Il y avait un beau grand Italien, très monsieur, et personne d'autre. L'on ne savait trop que se dire. Marie était aimable, lasse et bonne, jolie, sous des robes sans couleur et sans guère de forme, c'est-à-dire qu'elle n'en avait qu'une, mais une contenant l'essentiel des vilains vêtements que lui coupe Carette, note le couturier Paul Carette, depuis quelques années. Si je l'habillais, elle serait à peindre. En quittant ces trois personnes, je monte chez Anna de Noailles, manifester une politesse nécessaire. Madame est avec Monsieur Bartou, comme on dirait, au Grand Conseil. 12 décembre 1926, le lendemain. Brouillard, Anna de Noailles téléphone à propos d'hier. Elle compulsait des lettres d'amis défunts. Et pleurant, n'a pas voulu que je la visse, etc. Vous avez un fils charmant entre Ariel et Théodore de Banville. Notez, pour mémoire, à propos des manuscrits de Valérie qui se promèneront plus tard, que tous ceux qu'il a vendus depuis que je le connais étaient truqués, fabriqués après coup, et qu'il n'est pas de mois, peut-être de semaines, où il ne fasse un autographe de « travail » avec ratures, petites équations généralement dérivées et dessins fantastiques achetés au grand prix par l'amateur qui croit posséder l'équation pure du premier travail. Si la masse est très faible, il est manifeste que la vitesse dans le mouvement doit être aussi très faible. Paul Valéry lit ce texte le 14 décembre, c'est-à-dire 2 jours plus tard, 1926. 14 décembre 1926, plus 2 jours. Paul Valéry dit « Le centre de la science serait dans l'appareil d'essence. Celui qui comprendrait comment une modification de pourpre rétinienne, de bâtonnet, etc. donne l'image, comment, pourquoi, telle sensation salée en un point de la langue et sucrée en un autre, etc. saurait tout. » Fermez les guillemets. 15 décembre, le lendemain. Conversation avec Valéry et L.B., note, Louis Barthou, chez Weiss, note, André Weiss, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur honoraire à la faculté de droit et vice-président de la Cour internationale de justice de La Haye. Reprise, conversation de Valéry avec L.B. Weiss, chez Fontaine, note, Arthur Fontaine, 1860-1931, oncle d'Eugène Rouard et fonctionnaire au ministère des Arts, était fondateur de l'Office du Travail et le promoteur de la législation internationale du travail. C'est chez ce polytechnicien, à la solide formation scientifique et fin lettré, que Léon-Paul Fargue lut pour la première fois, le 29 avril 1917, La jeune Parc. Quelque temps plus tard, Arthur Fontaine introduisit Paul Valéry dans le salon de Madame Mulfeld. Reprise, conversation de Valéry avec L.B. et Weiss chez Fontaine hier soir, guillemets, où l'on fait l'Europe où la France est foutue. Fermez les guillemets. 17 décembre, plus 2 jours. De 1h15 à 4h. À la nationale. Le jeune bibliothécaire blond a de drôles de mœurs. Je trouve des textes épatants. Il y a des jours comme cela. Aujourd'hui, tous mes livres sont bons. Je ne sais à quel auteur me donner. Et les tablettes orphiques dans le grec avec un bon commentaire latin. Vive Phronimos, note. Surnom du professeur particulier de Montpellier, que Catherine Pozzi avait engagé en 1917-1918 pour lui faire réviser son baccalauréat. D'ailleurs, c'est du latin de cuisine, du latin boche. On est heureux dans cette cité, au silence gris. À 7h30, il téléphone. Nous nous racontons nos journées, il répond. Si nous traduisions la métaphysique d'Aristote ou les tablettes orphiques, note. Catherine Pozzi s'est effectivement attelée pendant les mois qui suivirent à traduire du grec des textes des tablettes orphiques, ce dont témoignent ses cahiers de travail de 1926, reprise. Ou les tablettes orphiques, combien y a-t-il de textes avec des eaux fortes et éditions de luxe? Oh, beau jour, qui donnait ensemble l'amour et l'amitié. Maman s'est décidée à se faire opérer. 20 décembre, matin, lundi, plus 3 jours. Voici sous ma fenêtre 2 petits garçons. L'un est Baka, à 12 ans, hilar, joufflu, cossu, toute une vie. L'on annonçait son départ pour l'Amérique. Il est sur l'océan, dans un deck clair, sur le pont, dans sa cabine de luxe, et la poule qu'il n'aime pas s'arrange la figure sans espérer un mot. Elle lui déplaît ce matin. On dit qu'il la boude durant des semaines, comme il faisait pour moi. C'était moi qui l'aimais. Claude a eu pour moi l'admiration sacrée de ce Baka qui avait 12 ans, qui eut 20 ans dans mes bras. Note de la lectrice, Baka est Édouard Bourdet. Fin de note. Il n'a pas résisté au refus de la chair. La matière est honnête, elle ne ment pas. Nous nous aimerions encore par méprise si nos corps ne nous avaient éclairés. Je l'aime encore en Claude, comme je l'aimais avant que mon corps ne le détestât. Ennui de monnaie, argent, depuis que le franc renverse les bourses. Mardi 21 décembre, le lendemain. Condamnation papale de l'AF. Note. La Ligue d'Action Française, mouvement du nationalisme intégral, fondée en 1899 par Pugeot et Vaugeois, bénéficiait depuis 1908 du soutien de son organe de presse que vendaient les Camelots du Roi et des voix de Léon Daudet, Charles Maurras et Jacques Bainville. Le pape Pie XI venait de condamner sévèrement les activités et les déclarations de l'activité française. Reprise. Valérie me parle du rapprochement des gauches et de Rome, la pétition l'autre jour des Dreyfusards, des droits de l'homme pour les noviciats des congrégations à cause de l'influence française en Argentine, etc., maintenue par les prêtres. Le temps est plein de mansuétude pour le Vatican. Et tout cela vient, j'ai essayé de le dire au directeur des affaires religieuses du Quai, un peu palichon, parcheminé quoique avant l'âge, retrouvé chez Jean, connu à Rome. Reprise. Et tout cela vient, j'ai essayé de le dire au directeur des affaires religieuses du Quai, de ce que le pape désire faire l'Europe. Et s'impatiente du xénophobisme de Maurras et des torches enflammées jetées sans répit contre la frontière. Beaucoup de gens désirent faire l'Europe un de ces jours. Le ciel veuille qu'il ne fasse autre chose. Qu'il ne fasse autre chose. Il est aujourd'hui tout à fait caché, sous la matière monde, bien enveloppé de soucis qui ne sont pas de son souci. Bien adultéré par l'événement extérieur qui mord sur l'esprit, y adhère, le défigure. Je me jure qu'il existe un lieu du ciel où rien ne puisse adultérer l'esprit. Où vous brillez. Je suis heureuse. 24 décembre, plus 3 jours. Test téléphone. Note. De la lectrice Test Valérie. Il téléphone. Impossible aujourd'hui à faire, comtesse. Que me laisserez-vous faire de cette veille de Noël, moi qui ne vous ai encore jamais rien préféré? À cette heure, vous, c'est vous. Ô seule volonté qui n'ait jamais en moi été laissée, vous le même pour ma conscience d'enfant. Vous qui résumerez ma vie devant la mort, il n'est rien de vous qui ne me soit science, curiosité infinie et tendresse. Je ris de ce que les autres disent amour. Au repos de la première heure de l'après-midi, un instant de sensation remarquable, triste et amère devant le feu, rideau tiré, je geins machinalement parce que je suis seule. Je m'entends dire « J'ai mal !» Et puis « J'ai mal à moi !» Cette forme bizarre m'ouvre d'un coup quelques portes de l'esprit. Je n'attendais pas de dire cela, au lieu de « J'ai mal au dos !» ou « Au bras !» ou « À la poitrine !» Ce « moi » sort, nommé par la chair même que je ne pensais pas. Paraît comme un voleur caché qu'on tire au jour. Il est là. Pendant moins que le temps d'une seconde, je l'ai vu, je l'ai surpris par le stratagème de conscience le moins préparé, mais si efficace, que jamais rien ne l'égalera. Un coup de loterie. J'ai nommé quelqu'un qui était accessible et non gardé. Par quelle fortune? Qui s'est laissé surprendre, que j'ai vu. Mal à moi. Il était comme une forme de corps toute sanglante, comme un corps sans peau. Je tâche de peindre pour comprendre ensuite peindre vrai, quelle que soit l'incohérence, il était un corps couvert de sang. Et ce corps était cœur. Je veux exprimer que ce corps couvert de sang avait tout le tremblant, le vivant, le troublant du cœur, était de la matière cœur. Ce grand rouge corps cœur qui s'appelait moi, et rester un instant debout égaré, ainsi qu'un sauvage qui va fuir. Et j'ai éprouvé son existence sans ma raison. Et cette expérience était une telle menace que j'ai dit « Que moi meurs !» 28 décembre 1926, plus 4 jours. Maman est tout le temps en train de ranger ses affaires, de classer ses papiers, de mettre en ordre sa fortune comme pour ne plus revenir. 29 décembre, lendemain. V. Valérie téléphone. Il est 10h30 du matin. On me transmet que Rilke note « Le poète autrichien Rainer Maria Rilke, 1875-1926, séjourna à Paris dans les premières années du siècle et fut alors le secrétaire de Rodin, ce qui marqua son écriture et sa pensée. Lors de son dernier séjour à Paris en 1925, Rilke rencontra Anna de Noailles, mais c'est grâce à Paul Valéry que Catherine Pozzi fit la connaissance de Rilke, qui lui envoya régulièrement ses propres ouvrages et ses traductions en allemand de Valéry. Le dernier volume qu'elle reçut de lui en décembre 1925, qui était « Paul Valéry, Gedichte, Übertragen durch Rainer Maria Rilke, édité à Leipzig par Verlag », portait cette dédicace à Madame Catherine Pozzi, à Karine, ses obéissants vertiges de pas post-valérien par le pont du silence qui porte et qui relie. Rainer Maria Rilke. Reprise. On me transmet que Rilke est mort. Rilke, je ne recevais plus signe de lui. Valérie l'avait prié de m'envoyer un livre en 1924. Et nous nous écrivîmes ensuite assez souvent. Il était venu à moi comme si j'avais été la grande aventure, messagère d'un ciel. Au moment de mon opération au bras, je recevais dans des papiers de la soie et les plus jolis liens deux roses de museau, note. C'est au château de Museau-sur-Sierre, dans le Valais, que Rilke passa ses dernières années avant de mourir d'une leucémie au sanatorium de Valmont. Et les plus jolis liens, deux roses de museau, des lettres ésotériques. Il est venu me voir comme je m'efforçais entre vivre et la mort. Sans doute ai-je représenté quelque Eloa de son Satan, mais plus tard, tout Paris, 20 personnes, a su que je refusais de recevoir Valérie, qui s'en plaignait, qui s'en étonnait. Rilke l'a su, Rilke, comme Paris, a jugé sur l'inconstance, ou l'ennemi, ou la fantaisie. Rilke n'a pas hésité de condamner ce qui lui était si facile de lui faire trouver admirable. Et quand son ami est redevenu moi-même en dépit de l'âme, nous n'avons pas envoyé de lettre de faire part. À 4h30, 5h30, je reviens de la bibliothèque, je bois du café, je m'assieds. Voilà une journée perdue, rien n'a pu surgir de la thèse d'un tunnel que je demandais. Note. La thèse de doctorat d'Ebe Tunneld portait sur ses recherches sur la valeur des traditions bouddhiques palies et non palies. Deux chapitres de la biographie du Bouddha étudiés d'après les sources palies, sanskrites, chinoises et tibétaines. Édition Lindstedt de 1914. Reprise. Rien n'a pu surgir de la thèse d'un tunnel de que je demandais. Sylvain Lévy, note, Sylvain Lévy, 1863-1935, indianiste et spécialiste des Védas. Reprise. Sylvain Lévy est par moments d'une bêtise, et le commentaire latin de mes tablettes orphiques m'a fatigué les yeux. D'ailleurs, chaque inscription funéraire répète la première. C'est une déception. Il va falloir chasser sur d'autres tirés, probablement les Orphicas d'Abel et Diogène Laërce. Et pour 4 heures de travail, on n'a pas 4 lignes de renseignements. Enfin, Il n'y a plus à douter quant aux origines du péché originel et du rachat, expressivement grec. Ah si, une remarque, une toute petite remarque pour prix de la traversée de Paris d'une carine froide. Aline, le paradis orphique, Athènes, 1912, guillemets. Le dieu de l'éclair projette les âmes dans l'espace comme des fulgurations instantanées ou comme des étoiles filantes. Fin de guillemets. Ceci très émouvant pour moi, à cause d'un souvenir du jour où j'ai été là-haut, sans jamais oser en écrire le récit. Note. Catherine Pozzi fait allusion à une illumination qu'elle eut à Montpellier pendant l'hiver de 1918. Elle précise bien qu'elle ne prenait pas de soporifique alors. Guillemets. Soudain, je sentis Audrey près de moi. Soudain, elle fut là. Audrey, emmène-moi d'ici. Elle n'était là que pour ceci, d'ailleurs. Et elle se mit à me tirer hors de moi-même. Audrey m'emportait. Fin de guillemets. Catherine Pozzi raconte qu'elles se sont comme envolées loin de la terre, traversant les ciels de l'intelligence, de l'amour, de la charité. À ce stade, Catherine Pozzi voulut poser la question vitale, celle de son débat misérable avec André, guillemets. Je dis, faut-il tuer la chair ou bien la rendre esprit? Apparut une hostie et la chute commença. Tombais, je redescendais, je retournais à un corps je ne sais où, et puis rien. Je me retrouvais sur la chaise devant le feu. Dans la pièce brillamment éclairée, on annonça le dîner. Elle n'osera écrire ce récit qu'en 1933. Reprise. Sans jamais en oser écrire ensuite le récit. À quoi bon d'ailleurs? Je tiens trop à ma self-composer, note, maîtrise de moi-même, pour faire médium ou du moins visionnaire. Ces expériences-là, l'on en vit sans les raconter. Elles sont pour les Rilke auxquels on ne les confie pas. Jeudi matin, 30 décembre, midi, le lendemain. Il n'aurait pas fallu, dans cette rue qui était à nous, la rue sacrée, amener l'enfant que vous me montrez. Est-ce pour me le montrer? Est-ce pour passer ici quand même, n'étant seul? Est-ce pour que je le sache par mes sens, ce que votre vie démontre à l'esprit? Est-ce pour, parce que je suis vous-même, que j'accueille dans ma vie celui-ci comme j'avais accueilli G, note, Janie, Gobillard, Valérie. Comme j'avais accueilli G sans la connaître, étant qu'elle n'était que cette molle épave, jetée entre nous par le destin, écrit dans la peine, midi trois quarts. Puis en italique, André mon esprit, je suis semblable à vous dans l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu à cause de vous. J'exige de moi ma difficile réalité. Nous nous retrouverons, il le faut, dans un soleil qui n'est point encore, et que nous aidons à créer par la peine infinie et la volonté de l'amour qui ne connaît pas et pourtant trouve. Fin d'italique. Il y a 12 ans que j'écris ceci. Est-ce un argument pour la persistance du moi? Par instant, je crois d'être seul immuable au-dessus des vagues de la mer. Et depuis moi, comme un rocher battu d'eau changeante, j'aperçois quelque chose. 31 décembre, midi, le lendemain. Il est revenu hier à 4 heures. Il a lu tout de suite ces 2 pages. Il a dit qu'il les prévoyait, qu'il était venu dans la rue le matin non seul, parce qu'obligé de sortir non seul, voir Karine cependant, et puis le désir de me montrer sa part quotidienne. Et si ma passion était moins bête, ce qui est l'essentiel de ma passion d'ailleurs, j'aurais éprouvé l'extrême de l'amour qui est de donner à l'autre cela même qu'il n'a pas choisi, cela même qui est, qui devrait être, hormis du partage. Je l'accepte, je l'accueille et le prends ce matin, ce dernier matin de l'année, qui sera la dernière à nous avoir pu séparer avant la nuit entière. Fin de l'année 1926.